France Culture.
Talmudique. Dans une conférence de 2005 faite à l'École normale supérieure et qui vient d'être publiée tout récemment aux éditions Albin Michel, sous le titre « Pour les générations futures », Simone Veil dit à propos de la Shoah « On pourrait croire que le temps passant, nous y pensons moins. Que parce que nous avons trouvé des intérêts dans nos vies, vu naître nos enfants, nos petits-enfants, voire nos arrière-petits-enfants, le passé est définitivement du passé. En réalité, nous prenons conscience que, d'une façon générale, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Et dans la très belle postface que Dan Arbib a écrit pour commenter cette conférence, il nous offre cette profonde pensée. Le passé n'arrête pas le temps, il laisse seulement l'action d'une gravité qui fait regarder l'avenir sans illusion, mais non sans espoir. Et il rapporte les propos de Simone Veil, qui disait souvent qu'elle n'aimait pas la notion de « devoir de mémoire » à laquelle elle préférait un devoir d'histoire, un devoir de réflexion. Ce qui passe, évidemment, ajoutait-elle, par un travail de mémoire, d'histoire et de réflexion. Fin de citation. Mais sans doute, faut-il préciser que ce travail inclut aussi un travail de narration, qui insiste sur la vie singulière des personnes dont la vie, aussi singulière soit-elle, est aussi un paradigme pour l'universel, se frayant un chemin vers chaque cœur, chaque esprit, et trouve la porte de l'âme de chacun. En tout cas, c'est la conviction toujours renouvelée de Claude Boucherberg qui, dans son dernier ouvrage intitulé « Un été métaphysique avec Joseph Schwartz », nous propose de faire la connaissance avec cet homme, rescapé de la rafle du Veldiv, seul survivant de sa famille et aujourd'hui âgé de 98 ans. Claude Boucherberg, bonjour.
Bonjour Marc-Alain.
Claude Boucherberg, c'est un très grand plaisir de vous recevoir à nouveau dans Talmudique. Les auditeurs vous connaissent bien, mais je rappelle que vous êtes ostéopathe, psychosomaticien, enseignant au Conservatoire ostéopathique de Nanterre, écrivain, cinéaste documentariste et homme de radio. Depuis plus de 40 ans, vous produisez et animez l'émission Mémoire et Vigilance, dont vous avez légué, il y a quelques mois, les archives au Mémorial de la Shoah. Pourquoi ce livre, qui, comme vous le précisez, n'est pas une biographie à proprement parler, mais un journal, un tissage de l'histoire d'un homme, de sa vie, de ses amitiés, avec des réflexions sur la mémoire, la finitude, l'amitié et la solitude, le judaïsme et la politique, Claude Boucherberg, et tout d'abord, qui est Joseph Schwartz?
Alors d'abord, je suis très sensible à votre introduction, Marc-Alain. Mais avant de revenir sur la trajectoire de notre ami Joseph Schwartz, je voudrais quand même reprendre un petit peu les propos de Simone Veil. Et quand vous évoquez Simone Veil, ça me rappelle un souvenir magnifique. C'est que, figurez-vous, cher Marc-Alain, c'est que en 1995, elle me remettait les insignes de chevalier dans l'Ordre national du mérite. Et elle découvrait dans mon dossier, et c'était pas rien, que son père et son frère, les Jacob, faisaient partie du même convoi que le mien, c'est-à-dire des déportés qui sont partis par le convoi 73, le 15 mai 1944 pour les Pays-Baltes. Et évidemment, ce jour-là, c'était un grand événement pour moi, beaucoup d'émotions, puisque ce jour-là, Simone Veil faisait part de la trajectoire de sa propre famille.
Quand vous dites « comme le mien », vous voulez dire de
mon
votre
père. Mon propre père, oui, c'est ça. Et pour revenir à ses propos, elle dit « il faut voir qu'en prenant de l'âge, on devient de plus en plus vulnérable ». C'est vrai, on est gagné malheureusement par ce qu'on appelle la vulnérabilité, la fragilité. Mais en même temps, je me souviens une autre anecdote. C'est que ce qui est positif, c'est que si d'un côté il y a une vulnérabilité qui se fait auprès des personnes, ou chez les personnes, il n'empêche que l'histoire, elle est toujours en marche. Et le souvenir que j'ai de Saul Friedlander, pour ne pas le nommer, un historien donc israélien, ça se passait donc à la Sorbonne, il y avait ce jour-là un colloque consacré à la Shoah, et je me souviens de ses propos, ça se passait il y a des décennies, et il dit... À ce moment-là, vous verrez, plus le temps va passer, plus on sera demandeur d'informations et de connaissances autour de la Shoah. Et on est en plein dans le thème aujourd'hui, bien sûr, puisqu'on n'a jamais autant publié, on n'a jamais autant fait que sur le plan des recherches et des travaux autour de la mémoire. Ça me permet de faire le lien avec ce qu'elle nous demande de réaliser, si je puis dire, c'est-à-dire non pas un devoir de mémoire, mais un travail de mémoire. Et il me semble que c'est ça qui est fondamental, c'est de faire en sorte que l'objet de la transmission, donc qui est offert, je dirais, à celui qui va nous suivre, de le prendre non pas comme un produit fini, mais pour s'éveiller à son tour, pour cet interlocuteur, à une créativité, pour devenir à son tour un passeur de mémoire. Et donc cela impose un travail lourd, c'est un travail de narration, autour d'une vie singulière, mais qui est aussi le paradigme de l'universel, parce que, en réalité, le travail de mémoire autour de la Shoah convoque l'universel et n'est pas que l'affaire du peuple juif assassiné. On est bien d'accord. Pour revenir maintenant à Joseph Schwarz, eh bien, il faut dire que, d'abord, c'est un homme très attachant, vous l'avez rappelé, 98 ans aujourd'hui. Il est aujourd'hui peut-être le plus ancien parmi les orphelins de la Shoah, de l'association des fils et des filles des déportés juifs de France, qui, vous savez combien j'y suis attaché et sensible. Il faut savoir que, vous l'avez rappelé également, il est rescapé du Veldiv. Son père, son frère et sa mère ont été raflés, donc le 16 juillet 1942, et lui-même a été raflé, mais un petit peu plus tard, c'est-à-dire le lendemain, il s'est retrouvé donc interné dans un centre de secours, et la chance qu'il a eue à ce moment-là, c'est qu'un policier lui a dit « fous le camp ». Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dehors, il est allé chez sa grand-mère, qui elle plus tard aussi a été déportée. C'est un mensch, comme on dit, un homme valeureux, qui s'est retrouvé donc orphelin de la Shoah à l'âge de 15 ans, qui est tout de suite entré dans la résistance, et puis petit à petit qui s'est reconstruit, jusqu'à devenir un industriel dans la métallurgie, dans les métaux notoires, qui n'a cessé, pendant toute sa vie, on peut dire, de militer avec, évidemment, les Klarsfeld et les fils et filles des déportés juifs de France. Et ce qui m'a semblé important, pour dépasser un petit peu sa biographie en tant que telle, c'est-à-dire pour lui donner encore plus de force, c'était de montrer la résonance que cet homme de 98 ans, fracassé par l'histoire, pouvait nous apporter comme réflexion métaphysique aux holomos, offerte par son vécu, à travers ce que vous avez bien saisi, et je rends hommage à votre lecture si attentive et si performante, à vous et à Françoise Anne Ménager, c'est à travers ces mots simples mais vrais, Joseph donne de quoi penser en termes de temps, de finitude, de vulnérabilité, d'humour, on le verra, de révolte, d'espoir, de transmission, etc. Et en cela, évidemment, Joseph nous ressemble. Il est notre frère humain et sa singularité d'homme en appelle à l'universel. Il faut le dire, sa dimension historique éclabousse l'universel. Au fond, Joseph nous permet de nous familiariser avec l'essence du temps, de rentrer dans l'essence du temps. Évidemment, on le sait, il n'y a rien de plus métaphysique que la question du temps. On peut se référer à saint Augustin qui dit que l'on a l'intuition en soi de la nature du temps, mais si on nous demande de dire ce qu'il est, ben on ne sait plus. Cette notion-là doit être complémentarisée, si je puis dire, par ce que j'appellerais l'action de l'être-corps. J'oublie pas que je suis aussi versé dans la psychosomatique, et que dans ce sens-là, ça demande une implication charnelle. Et c'est tout l'objet, je dirais, du combat, du militantisme de Joseph Schwarz. Parce que, en fait, c'est une mémoire charnelle qui nous fait descendre dans la rue. Et c'est notre ciment, c'est-à-dire que la mémoire que nous portons, elle est proprement existentielle. La tombe des nôtres, c'est nous qui la portons. Mais les nôtres nous demandent aussi de prolonger leur voix, de célébrer la vie, il ne faut pas l'oublier, Chaim, et d'être, et j'insiste, tout simplement heureux. Et donc, à cette condition-là, peut-être qu'on peut espérer que la chaîne de la mémoire se perpétue. Et c'est vous, je me souviens un jour dans nos conversations, qui m'avez appris que Netzach est un mot amphibologique qui signifie à la fois victoire et éternité, une victoire surtout sur le temps arrêté de l'être, c'est-à-dire qui nous figerait dans le passé, qui devient ce que j'appelle la crise de l'être, c'est le fait que nous sommes rivés à un présent sans possibilité d'en sortir et bien entendu de ne pas pouvoir avancer, de ne pas avoir d'avenir.
Dans cette crise de l'être, comme vous dites, c'est-à-dire que quand on risque d'avoir un temps intérieur qui s'arrête, il y a des choses qui le remettent en mouvement. Et j'ai l'impression, en vous lisant et en vous entendant raconter dans ce livre l'histoire de Joseph Schwarz, oui, qu'il y a un élément qui remet le temps en route, c'est l'humour. On comprend à quel point l'humour est important pour vous deux et pour continuer à vivre avec ce poids qui ne disparaîtra jamais de l'épreuve de la Shoah, mais de manière générale, l'humour est peut-être ce qui met en mouvement Claude Boscherberg.
L'humour, vous le savez très bien, c'est que ça participe d'un sas de protection. Ça permet de sortir la tête hors de toute violence, au fond, pour continuer son chemin, pour faire en sorte que, comme le dit Yankelevitch, parce que vous savez combien Yankelevitch m'est cher, du reste, comme Lévinas, Yankelevitch dit « L'humour permet de rendre la vie plus légère et plus coulante. » Et ajoute-t-il, « L'humour est taillé dans la même étoffe fluide que le devenir. » C'est-à-dire que si on l'écoute bien, cet humour, il nous porte, existentiellement parlant. Et c'est dire si c'est important pour conforter, évidemment, notre persévérance à être. Et vous savez, dans les temps les plus violents, les plus barbares que les Juifs ont connus, l'humour était aussi toujours présent. Vous le savez, j'ai recueilli beaucoup de paroles des survivants de la Shoah. Maintenant, ça s'est réduit fortement. Mais il me racontait aussi qu'au camp, il y avait aussi cette possibilité, je dirais, de se rattacher à cette petite récréation. Je le dis avec beaucoup de pincettes, c'est-à-dire le fait qu'il fallait, je dirais, se sortir un petit peu cet enfer. À travers quoi ? À travers un mot d'humour aussi.
L'humour a sa place au quotidien dans vos échanges avec Joseph Schwarz. Cet humour grave que vous venez de rappeler, il y a aussi une question qui traverse vos échanges, même si vous ne le formulez pas explicitement, à savoir la définition de ce qu'est être juif, d'un judaïsme qui n'est pas celui de la pratique ni du rituel, mais d'un engagement pour la vie, vous l'avez évoqué, Chaim, pour le vivant, l'espoir aussi. Et en citant Lévinas dans « Difficile liberté », vous dites « Être juif, cela signifie nager éternellement contre le crasseux et éternel courant humain. » Vous parlez alors d'un juif de résistance, et c'est ainsi que vous voyez Joseph Schwarz, Claude Boscherberg.
Oui, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que Joseph est un homme qui a été fracassé par l'histoire, en raison de l'histoire tragique de sa famille, mais il n'a pas abdiqué. Et je le dis avec beaucoup d'émotion, il est doté d'une propension à une révolte que je qualifierais de toujours fraîche, qui est le signe de sa vitalité. On en parlera peut-être de son excédence, hein, c'est un mot peut-être un peu compliqué, mais qui est très fort. J'ai écouté il n'y a pas si longtemps une de vos émissions, et il était question d'apporter une lumière sur ce grand personnage qui était Edmond Flegg. Et j'ai retenu ce mot, et c'est très fort. Espérer l'espérance.
Avec le grand rabbin de France.
Il n'y a pas si longtemps. C'est ce que nous enseigne aussi, d'une certaine manière, Joseph. Cet espoir de l'espérance habite Joseph, même si, en réalité, il s'interroge, comme nous. Y a-t-il une leçon perdue d'Auschwitz ? Mais l'espérance, elle est soufflée par cet esprit de résistance que vous soulignez dans le fait juif. Et c'est pourquoi je le qualifie de juif de résistance, parce que, en réalité, on dit en vieux français la tête roide, c'est-à-dire une tête digne, c'est-à-dire en fait traverser le temps, traverser l'histoire avec, je dirais, du panache, quoi. C'est ce qui caractérise vraiment Joseph. C'est pour ça que mon désir le plus profond, c'était de rendre hommage à cet homme qui est l'humilité même, la modestie même, et qui a tellement fait. Et je dirais, avec une attitude asymétrique, vous le savez, nous faisons référence à Lévinas tous les deux, asymétrique, ça veut dire que donner à l'autre de tout son cœur, de toute son âme, sans attendre de retour. C'est formidable, ça.
Formidable. Alors, on voit un homme qui est plein de panache, qui est plein d'appétit de vivre, ce que vous avez appelé l'excédence. On sent le devenir, on sent l'humour. Et il y a pourtant, dans les temps que nous traversons quelque chose qui est moins léger que l'humour. Il y a des choses graves qui se passent actuellement, c'est l'antisémitisme. Et j'ai été très frappé par une réflexion de François de Fontette que vous rapportez. Il écrit dans son histoire de l'antisémitisme « Je suis certain que nous assisterons dans un temps ultérieur à une forme d'antisémitisme véritablement méconnue jusqu'alors ». Il écrit cela il y a plus de 40 ans, Claude Aucherberg. Je me dis, quelle lucidité, mais comment réagir face à ces nouvelles formes d'antisémitisme? Et ma question est la suivante. Est-ce que vous en parlez tous les jours quand vous appelez Joseph Schwarz, et comment réagit-il à cette forme nouvelle d'antisémitisme?
D'abord, je tiens à dire, parce que vous me rappelez un souvenir, effectivement, je l'ai écrit dans cet ouvrage, mais vous savez... quand on a des décennies d'antenne, on n'oublie pas les visages souvent, et d'aucuns nous frappent. Et je dois dire que François de Fontette est de ces personnages que je n'ai pas oubliés. C'est un monsieur qui, en fait, avait travaillé beaucoup sur le thème de l'antisémitisme, vous l'avez rappelé, à travers deux ouvrages majeurs, publiés dans la collection Que sais-je à l'époque, et je l'avais reçu donc à plusieurs reprises à mon antenne. Ce qui était frappant, c'est qu'il avait un accent prophétique. Il avait cette intuition de me dire, en sortant de notre rencontre, « Vous savez, je ne peux pas être complètement exhaustif dans les recherches que je fais, mais une chose est certaine, c'est qu'après avoir analysé toutes les séquences de l'antisémitisme à travers l'histoire, il me confiait à ce moment-là, « Vous savez, on assistera probablement à une autre donnée, à une autre séquence, et on est en plein actuellement dans ce thème-là. » Et du reste... on fait le lien avec Yankelevitch dans ses ouvrages, Yankelevitch, et en particulier dans ce beau livre qui pour moi est un livre de chevet comme le vôtre, j'en suis sûr, on se connaît d'une certaine manière, c'est que quelque part dans l'inachevé, c'est bien dit, c'est que il y a une trouvaille, l'antisionisme qui est trait d'union antisémitisme, qui fait que aujourd'hui, je n'ai pas épilogué davantage, mais on a bien compris qu'il y a un pourrit antisémite aujourd'hui, qui renoue, je dirais, avec les années maudites qu'on a connues.
Pendant la guerre, avec mes faux papiers, je m'étais inscrit à la bibliothèque des sociétés savantes rue Serpente. J'ai toujours été attiré par la lecture depuis... je me souviens toujours, j'ai eu le premier prix de récitation. Je vois encore ma pauvre mère. On amenait ses rubans à l'école. Pour enrubaner le prix qu'on te donnait.
Nicole, la femme de ta vie. Ouais. Comment tu rencontres Nicole?
Nicole rencontre d'une façon bizarre. Je faisais du théâtre, figure-toi. J'ai fait du théâtre en 1947 ou 8, 9. J'ai connu Nicole là, au théâtre de l'Atelier. J'aimais bien le misanthrope. Je dois lui dire, allez, vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser. Et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser, je vous vois accabler un homme de caresses, et témoigner pour lui les dernières tendresses, de protestations, d'offres et de serments, vous charger la fureur de vos embrassements. Allez, hein?
Mon écoute, c'est magnifique, c'est super.
Une chose lâche, indigne, infâme, que de s'abaisser ainsi pour s'assalir son âme. Et si par un malheur j'en avais fait autant, je m'irais de regret pendre tout à l'instant.
On vient d'entendre la voix de Joseph Schwarz. C'est un extrait d'un film que vous avez réalisé avec Michel Rosenthal. Oui. Un film de 29 minutes où l'on entend Serge et Beat Klarsfeld et Joseph Schwarz que vous interrogez et dont l'un des thèmes qui revient comme dans votre livre est un thème qui est le thème de l'amitié. Le titre du film le dit avec force. Joseph Schwarz, le meilleur ami de Serge Klarsfeld. J'oserais dire ici une amitié à la vie et à la mort, sans que ceci soit mortifère, Claude Aucherberg. Racontez-nous, parce qu'il y a quelque chose de quand même très très étonnant oui. dans cette histoire d'amitié.
Oui, mais c'est bouleversant, parce que en fait c'est une amitié, et je dirais même une fraternité, qui va transcender le temps, puisque Serge le dit, et le déclare. En réalité, il veut partager sa tombe avec son frère, il le qualifie de frère, de manière à ce que le dialogue continue au-delà de la vie terrestre. Vous savez ce qui m'a bouleversé, c'est que, en fait, quand Serge Klarsfeld publie les 4000 enfants déportés de la rafle du Veldiv. C'est un ouvrage aujourd'hui qui a été, je dirais, recommandé par la ville de Paris à toutes les classes des écoles communales, hein, des écoles primaires. Bon, en première de couverture, on voit Joseph et son frère Paul. Je tourne la page et qu'est-ce que je vois ? Une dédicace, écoutez bien cette dédicace. Cet ouvrage est dédié à mon ami Joseph Schwartz. Entre parenthèses, c'était S-Z-W-A-R-C. Bon, c'est devenu Schwartz. Rescapé de la rafle du Veldiv, où sa famille a disparu, et il ajoute cette phrase, « Nos deux familles resteront unies dans la même tombe. » Et donc, je dirais qu'il n'y a pas d'autre commentaire, c'est-à-dire que c'est une fraternité qui fait que, entre l'un et l'autre, et on pourrait ajouter aussi ce qui gravite autour de ces deux personnages, en appel, je dirais, à ce que nous apprend Lévinas, c'est-à-dire avec cette philosophie du visage, qui me regarde et m'appelle, me réclame, et à ce moment-là, me réclame parce que je ne peux pas laisser l'autre, celui que j'aime en particulier, à sa solitude. Ne pas le laisser à sa solitude. Surtout quand les uns et les autres nous avançons en âge. Alors il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire sur la fraternité. C'est quelque chose qui nous porte. Parce que cette parole d'amitié, elle va flirter avec une certaine idée de l'infini. Parce que je voudrais quand même reprendre un petit peu les termes de Yankelevitch. Vous savez, j'ai pas exactement sa phrase véritablement précise en tête, mais dans son immeuble de l'île Saint-Louis, hein, où il y a une plaque, il est dit que celui qui a été, de toute façon, il a été de toute éternité. Je dirais que avec l'amitié, avec la fraternité, qui va aujourd'hui dans ce monde moderne laisser des traces, c'est évident. Je dirais que d'une certaine manière, ça nous suivra après, quoi. Et c'est peut-être ça qui nous donne un sentiment d'utilité, parce que vous l'avez compris à travers cet ouvrage, je me sens aussi impliqué dans la mesure où ce que je vois de la vulnérabilité de ceux que j'aime, ces amis que j'aime si fort, c'est une sorte de projection aussi qui m'incombe. C'est-à-dire que la fraternité, elle en passe par quelque chose de, qui est perméable au cœur et à l'esprit.
Oui, on sent vraiment en vous lisant que c'est un livre sur l'amitié. Et on sent cette idée de l'amitié comme porte sur l'éternité.
C'est ça.
Et le fait que Serge Klarsfeld désire que Joseph Schwartz et sa femme, Nicole, oui, soient dans la même tombe, oui, que Serge lui-même et sa femme, Béate. On parle de mort, mais en fait, il y a quelque chose comme ça d'une sorte de joie de vivre en disant cela. On parle de tombe, mais il y a une sorte de célébration très forte,
oui,
de l'amitié.
Oui.
Et j'ai bien aimé ce que vous venez de rappeler et qui apparaît de manière très forte dans votre livre. Et vous dites que c'est une idée, que l'amitié, c'est le fait que on laisse, je vais lire la phrase exacte de Lévinas que vous, oui, citez, que vous avez déjà cité, l'amitié, c'est l'impossibilité de laisser l'autre à sa solitude. Ce que Lévinas dit aussi de l'amour. J'aimerais qu'on revienne un peu là-dessus, vous en avez parlé rapidement, mais ça mérite commentaire. Parce que on parlait d'une éthique en acte, tout à, oui, l'heure, d'une mémoire en acte, et je pense que l'amitié en acte, ne pas laisser l'autre à sa solitude, surtout aujourd'hui, me semble quelque chose d'essentiel, Claude Boucherberg.
La parole comme trait d'union, je dirais, pour nous faire entrer dans la voie de l'amitié. Il ne peut pas y avoir d'amitié, je dirais, dans un profond silence. Hein. Bon, encore que ça existe, mais je dirais, la parole est là comme trait d'union. Alors, je reprends quelque chose qui m'importe. C'est, par exemple, bon, je voudrais quand même rappeler que dans un de vos ouvrages, et je voudrais citer quand même Bibliothérapie, vous dites, et c'est très porteur pour moi parce que je pense que ça peut faire relais avec mon enseignement, vous dites que, d'une certaine façon, le langage oral ou écrit est coextensif et intriqué à la dynamique de l'être. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, entre amis, je dirais dans un esprit d'ouverture complète, fraternelle, vraie, eh bien, la fluidité de la parole fait que, d'une certaine manière, ça interfère sur l'être-corps. Et ça nous donne, je dirais, beaucoup de vitalité. C'est ça qui nous porte. Et comme c'est une vitalité qui se conjugue au présent, ce présent, c'est un présent d'éternité. C'est ça qui transcende, je dirais, notre voyage sur l'au-delà. Quel bonheur d'avoir eu des frères, des amis, si vrais, si proches, avec, je dirais, un destin commun.
Oui.
C'est ça qui est incroyable.
Claude Boucherberg, toute cette question de la littérature, du théâtre, du dialogue, en fait, cela amène à la question de l'autre et à une articulation par rapport au temps et la question de la solitude que vous avez évoquée, parce que je pense à cette phrase magnifique et profonde de Lévinas qui dit « La solitude est une absence de temps ».
Oui, la solitude est une absence de temps, puisque en fait, avec Lévinas, on sait qu'il va créer, je dirais, cette notion du temps comme étant l'apparition de l'autre. Et le temps et l'autre de Lévinas, dans lequel il argumente ce qu'il entend par cette relation au temps, eh bien, c'est tout simplement une extension d'être. C'est-à-dire que l'autre va conforter mon épaisseur d'exister, et en vérité, l'autre, à l'origine du temps, et je trouve ce mot formidable, c'est à l'origine du temps, permet un élargissement de l'existence. C'est exactement ce qui caractérise Joseph, c'est que dans la relation à l'autre, en réalité, c'est autant de temps élargi au quotidien à travers les dialogues que nous avons avec lui.
Claude Boucherberg, oui. 98 ans, c'est un bel âge, et comme Moïse, le Moïse biblique, Joseph Schwartz, comme nous tous, a comme horizon, à la fois avec humour et le plus sérieusement du monde, l'âge de 120 ans. Et pour parcourir ce chemin, Joseph Schwartz est animé d'une soif de vivre, d'une puissance intérieure à la vie même, d'une excédence de soi en soi par soi, c'est le terme oui. que vous utilisez. Vous reprenez la formule au philosophe Polody, et je crois que cela mérite commentaire.
Oui, mais ça mérite un commentaire parce que on est exactement dans ce qui caractérise Joseph. D'abord, rappeler qu'il a une relation au livre qui est une relation existentielle, c'est-à-dire que d'une certaine façon, ce n'est pas pour lui une coquetterie mondaine, c'est de l'ordre d'une relation profonde, et que dans ce sens-là, il ne faut pas oublier que lui qui n'a pas fait d'études est un autodidacte accompli. Et je pèse mes mots quand je dis ça. C'est-à-dire que, pour lui, la littérature, c'est un moyen de se construire, c'est un moyen également, je dirais, de conforter également son besoin d'exister au sens propre du terme, et pas seulement de vivre. Et en ce sens-là, il est animé d'une force, d'une vitalité, qui fait que, en reprenant un petit peu le concept d'excédence qui est effectivement bien commenté par Polody, j'ai trouvé effectivement que ce qui pouvait le caractériser, c'est cela. Son appétit, je le dis de tête, hein, son appétit de vivre excède sa vie même. C'est-à-dire que on a affaire à un personnage qui va se hisser au-delà de lui-même, je le traduis avec des mots simples, parce que, d'une certaine manière, lui, cet homme blessé par l'histoire, et je reprendrai le mot de Cyrulnik, blessé, un blessé de l'âme, eh bien, malgré tout, il a maintenu le cap et il s'est hissé au-delà de lui-même. Pourquoi ? Parce que dans le combat qui a été le sien avec, encore une fois, l'association des fils et filles des déportés juifs de France et les Clarsfeld, c'est quelque chose qui portera une trace pour demain. Et je dirais que ce n'est pas donné à tout le monde, quand même.
Vous venez de citer Cyrulnik, je le citerai encore. Il dit « Plus que la force physique, la force mentale organise la résistance à l'épreuve et à la reprise d'un développement résilient, et celle-ci, fin de citation, se construit par le sens que l'on donne à sa vie. Et donner du sens à une épreuve, c'est important, même dans une épreuve tragique, et comme dit encore Boris Cyrulnik, c'est mettre dans son âme une étoile du berger qui indique la direction. Il faut alors marcher, rêver, réfléchir et rencontrer ce qui nous aide à élaborer. » Ma question, c'est quelle fut et quelle est encore aujourd'hui cette étoile du berger pour Joseph Schwartz qui fait de son histoire singulière une histoire universelle, Claude Boucherberg?
C'est simple, Joseph nous ressemble, c'est un frère humain. C'est un frère humain qui nous offre une exemplarité. Parce que, encore une fois, il a maintenu le cap. Et en réalité, je dirais que dans son histoire, il ne faut pas oublier en fait son amour de la littérature, bien sûr, son amour du théâtre, mais également l'amour qui lui a été offert par Nicole, sa femme, et puis par son frère, hein, bien sûr, je voudrais citer Serge, pour mener ce combat. Et en reprenant quelque chose qui est très important pour nous, c'est que ce combat n'a pu être mené parce que nous étions heureux, parce que l'amour était présent. Nous avons la certitude, je dirais, d'être portés par cet amour, avec cette certitude-là, de défendre une belle cause, qui est celle de la victoire de la lumière sur l'ombre, c'est-à-dire de l'indifférence et de la haine. C'est peut-être comme ça quelque chose qui peut paraître banal, mais c'est une chance, c'est un mazel de savoir que, d'une certaine manière, on a été porté par tout ce que je viens de dire, quoi. Et, au fond, le projet de cet ouvrage, c'était à travers, je dirais, la trajectoire de Joseph, de savoir que cet homme-là, avec ses mots simples, est vrai, et sa révolte, et son appétit de vivre, c'est notre frère humain, et qui, en vérité, nous donne une belle leçon à suivre.
Merci Claude Boscherberg pour cette passionnante conversation. Je rappelle le titre de votre très bel ouvrage, Un été métaphysique avec Joseph Schwartz. C'est aux éditions Inédit. Je rappelle aussi le titre du film que vous avez réalisé avec Michel Rosenthal et dont nous avons entendu un extrait, Joseph Schwartz, le meilleur ami de Serge Klarsfeld. Deux beaux hommages à ces hommes et ces femmes d'exception que nous saluons très chaleureusement, car je sais qu'ils nous écoutent aujourd'hui. Merci encore, Claude Boscherberg.
C'est moi, cher Marc Alain, qui vous remercie, ainsi que Françoise-Anne Ménager, pour cette lecture vraiment si sensible, et je le dis vraiment, qui me touche infiniment.
C'était Talmudic, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Manon et Olga Houssin et Eva Canet-Paro. À la réalisation, Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture à l'onglet Talmudic. Kol Touv, Leitraot, au revoir. Bonne fête de Hanouka et bonne fête de Noël et à dimanche prochain.